שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש.
Bonjour, nous lisons dans les écrits du Rabash l'article Qu'est-ce que par impatience et par un travail difficile dans le travail? Vous pouvez trouver notre matériel dans Zvivatova ou sur le système Arvut et vous pouvez nous envoyer des questions en direct sur notre site. Celui qui pose une question ici dans la salle d'études doit se lever. Prendre le micro, le rapprocher de la bouche et parler haut et clair. L'article du Rabash, qu'est-ce que par impatience et par un travail difficile dans le travail? Il est écrit dans le Zohar Vaera, Rabbi Shimon a dit, l'impatience, quand le jubilé n'est pas encore sorti, signifiant Bina, pour leur donner repos et liberté. Et le dernier esprit, Malhout, ne gouvernait pas encore le monde pour inculquer des règles droites au monde. D'où la patience et de quelle impatience s'agit-il? C'est Malhout qui n'a pas pu sauver Israël. C'est le sens de par impatience. En hébreu, l'expression utilisée pour impatience est manque d'esprit. Nous devons comprendre le sens de travail difficile et impatience. Manque d'esprit. En d'autres termes, quel est le lien entre le dur travail et l'impatience dans le travail? Nous devrions également comprendre ce que Rabbi Shimon interprète au sujet de la patience à l'égard de Malhout, en quoi cela a à voir avec le travail difficile. Nous savons que l'ordre du travail pour servir le Créateur est qu'une personne doit travailler pour se trouver des kélim dans lesquels elle pourra recevoir le plaisir et les délices que le Créateur a voulu donner à ses créatures. Nous savons que la raison de la création des mondes était son désir de faire du bien à ses créations. Pour cette raison, il a créé chez les créatures une envie, un désir ardent de recevoir plaisir et délices. Dans le désir et l'envie de plaisir, nous mesurons le goût du plaisir, c'est-à-dire que la taille du grand désir pour une chose susceptible de nous procurer du plaisir détermine la taille du plaisir. Pour cette raison, la petitesse ou la grandeur du plaisir d'une personne est mesurée en fonction du désir ardent de plaisir contenu dans cette chose. D'où viennent donc les discernements des destinataires du plaisir? Après tout, ils ont tous été créés avec le désir de recevoir pour eux-mêmes. Alors, pour quelle raison l'un ressent peu de plaisir et l'autre beaucoup de plaisir? Autrement dit, quel imbécile voudrait recevoir peu de plaisir là où il pourrait en recevoir beaucoup? Mais parce que le Créateur a voulu réaliser la perfection de ses actions, c'est-à-dire que faire du bien à ses créations signifie tout donner, c'est-à-dire que lorsqu'il reçoit les délices et le plaisir, l'homme ne ressent aucun désagrément, à savoir la honte, comme il est écrit. Celui qui mange ce qui n'est pas à lui a peur de le regarder en face. D'où le timtsum et la dissimulation sur les récipients de réception a été placée, qui sont les kelim avec lesquels l'homme a été créé par la nature. En d'autres termes, il y a deux choses à ce sujet. Un, nous ne pouvons recevoir aucune abondance de la Kedusha, la sainteté, dans ses Kelim. Deux, tant que l'homme n'a pas acquis des récipients de dons, il ne voit pas le plaisir et les délices que l'on trouve dans la Kedusha et ne peut percevoir le goût du plaisir, sauf la petite illumination qui a été donnée aux clipotes pour qu'elles existent. De ces étincelles qui sont tombées dans les clipotes naissent tous les plaisirs de ce monde. Tout le monde le voit, c'est-à-dire que le plaisir est visible, c'est-à-dire que chacun peut goûter ses plaisirs avec les récipients de réception qui veulent recevoir du plaisir dans leur propre intérêt. Inversement, les délices et le plaisir de la Kedusha, qui sont l'essentiel des plaisirs qu'il a voulu donner à ses créatures, ont disparu des récipients de réception. C'est ce qu'on appelle le tsimsum et la dissimulation. Par conséquent, deux choses ont émergé de cette correction. Qu'il n'est possible de recevoir les plaisirs de Kedusha que si l'homme a acquis des récipients de dons. 1. Une personne doit croire que l'essentiel du plaisir et des délices que le Créateur veut donner aux êtres créés se trouve dans la Kedusha. 2. Nous devons travailler contre la nature et ne rien recevoir pour nous-mêmes, mais seulement pour le Créateur. Ceci induit une distinction de degrés, c'est-à-dire que personne ne se ressemble, car en ce qui concerne ce qui vient du donneur, nous sommes tous égaux, comme le dit le Hari, avant que les émanations n'émanent et que les créatures ne soient créées, la lumière simple et supérieure remplissait toute la réalité. Il n'y avait ni début ni fin, mais tout était simple lumière. Pourtant, par la suite, après la correction de ne recevoir que dans des récipients de dons, il y a eu une multiplication des mondes, ce qui signifie beaucoup de discernement relatif à l'attention qu'on peut avoir en vue de donner. C'est ce qu'on appelle la multiplication des massarines, des écrans, et par cela, une distinction de degré a eu lieu. C'est ce que disent nos sages. Chaque juste reçoit une section selon sa gloire. Il en est ainsi parce qu'il y a une différence dans les kelim du receveur, c'est-à-dire les kelim que le receveur doit faire, qui sont appelés récipients de dons, ce qui signifie recevoir pour donner. Alors que les récipients de réception dans son propre intérêt proviennent de l'émanateur. Une personne n'a pas besoin de travailler sur ses kelim, puisque le Créateur l'a créé avec ses kelim. Par conséquent, le seul travail des êtres créés est d'obtenir des récipients de dons. C'est-à-dire qu'une personne doit arriver à un état où tout ce qui ne touche pas à l'intérêt du Créateur ne l'intéresse pas. Mais son seul désir est d'arriver au point où elle peut contenter son Créateur. Ainsi, quand une personne commence le travail, elle commence dans l'olishma, pas en son nom, c'est-à-dire dans son propre intérêt. Par la suite, elle commence à comprendre que s'engager dans l'olishma n'est qu'une ségoula, remède pour arriver à l'ishma, en son nom. Comme le disaient nos sages, de l'olishma, nous arrivons à l'ishma, puisque la lumière en elle ramène vers le bien, et l'homme croit qu'à la fin, il arrivera à l'ishma. Par la suite, une personne fait un autre pas en avant et commence à travailler. Elle essaie de faire des choses qui l'amèneront à l'Ishma, c'est-à-dire qu'elle commence à comprendre qu'il faut agir avec l'intention que ces actions l'amèneront au degré de l'Ishma et vérifie si elle a déjà été récompensée de l'Ishma. À ce moment-là, elle commence à voir la vérité, à quel point elle est loin du travail du don. À chaque fois, elle voit de plus en plus à quel point elle est immergée dans l'amour de soi. Elle voit que chaque jour, elle recule, et alors son travail, où elle veut travailler pour donner, s'appelle travail difficile. Il en est ainsi pour deux raisons. Elle voit maintenant ce que signifie pour donner. Une personne doit croire en nos sages que le fait de voir maintenant ce qu'est pour le Créateur lui fait comprendre qu'elle ne connaissait pas sa véritable signification. Au contraire, comme nous l'avons expliqué, ce que le Zohar dit du verset, on lui informe de son péché, l'homme me demande qui le lui a fait connaître. Et il répond, le Créateur. Nous devons interpréter que lorsqu'une personne sent à quel point elle est loin du travail du don et qu'elle est immergée dans l'amour de soi, c'est une révélation d'en haut. Maintenant, ce travail devient difficile, ce qui signifie après que d'en haut, on lui ait informé le sens de « pour le Créateur et non pour soi-même ». Son travail est devenu plus difficile. Cependant, une personne pense que maintenant, elle est devenue pire que lorsqu'elle a commencé le travail pour donner, comme si elle était elle-même devenue pire maintenant. À ce moment-là, une personne doit croire que ce n'est pas le cas. Au contraire, elle a avancé vers la vérité quand le Créateur l'a informée de sa situation réelle. Il s'avère qu'à travers le travail, quand elle a commencé à faire, qui lui apparaît maintenant comme un travail difficile, le Créateur s'est adressé à elle parce qu'elle est maintenant dans un meilleur état que quand elle n'avait pas encore commencé à travailler sur le don. Cependant, la deuxième raison pour laquelle c'est plus difficile pour elle, c'est que normalement, quand une personne veut apprendre un métier, elle s'adresse à un professionnel pour qu'il lui apprenne le métier qu'elle pense lui convenir. Si l'artisan voit qu'elle ne progresse pas après un certain temps d'apprentissage avec lui, l'artisan lui dit « Ce métier n'est pas pour toi. Il est trop difficile. Cherche un métier plus facile pour toi et fais-en ton gagne-pain. » Par conséquent, pour servir le Créateur, lorsqu'une personne commence à travailler dans le don et pense que selon l'ordre du travail, chaque jour, il devrait y avoir un progrès, elle dit qu'il est utile de continuer ce travail de don, car elle est certaine d'apprendre cette profession afin de tout savoir faire pour le Créateur.
Ma
Mais quand elle voit qu'après un certain temps d'effort dans ce travail, non seulement elle ne progresse pas, mais elle a même reculé, alors son corps lui dit, tu gaspilles tes forces dans ce travail. Ce métier n'est pas pour toi. Ce travail exige des compétences particulières et un cœur vaillant. Va et cherche un autre métier comme tout le monde et ne fais pas exception à la règle. Il s'avère que c'est ce qu'on appelle un travail difficile, puisque dans tout travail, quand l'homme veut faire des efforts et emprunter le travail du don, le corps ne le laisse pas travailler et s'y oppose avec des arguments pertinents. En effet, d'après la logique, il a raison à 100%. Il s'ensuit que la calomnie qu'il entend de son corps alourdit son travail. C'est pourquoi il s'appelle « travail difficile ». Cependant, une personne devrait croire qu'en vérité, elle fait des progrès et que la raison pour laquelle elle voit que chaque fois, elle est plus immergée dans l'amour de soi et qu'elle est pire qu'avant, c'est-à-dire dans un état de bassesse qui est pire que quand elle a commencé le travail du don, c'est que « car j'ai endurci son cœur ». En d'autres termes, le Créateur lui montre à chaque fois ce que signifie ne pas travailler pour soi-même, mais seulement pour le Créateur, en faisant connaître à une personne la signification de ne pas travailler pour elle-même. Par ceci, l'homme voit à quel point c'est vraiment contre nature, puisque l'homme a été créé avec le désir de recevoir pour lui-même et qu'il veut maintenant faire quelque chose qui est contre nature. C'est pourquoi cela s'appelle un travail difficile. Cependant, la question est la suivante. Pourquoi le Créateur dit la vérité à une personne qu'elle est incapable de travailler contre la nature? C'est parce que, comme il est écrit, pour que je puisse placer mes signes en lui, c'est-à-dire par la découverte de tout le mal en une personne, le Créateur peut alors apporter son aide. Comme nos sages l'ont dit, celui qui vient se purifier est aidé. Et puisque ce qui est donné d'en haut est une chose complète, une personne doit avoir un cli complet, ce qui signifie un manque complet, appelé cli complet, dans lequel toute la lumière peut entrer. Il s'avère que le Créateur révèle le mal à une personne afin de l'aider. C'est-à-dire que, puisqu'il n'y a pas de lumière sans cli, lorsque le mal n'est pas visible en entier, elle n'a toujours pas de cli complet. Nous pouvons interpréter cli complet comme un désir complet pour son aide, l'aide du Créateur. Car tant que le mal n'est pas visible, une personne dit parfois que si elle triomphe, elle pourra certainement arriver à travailler dans le don sans réserve, et parfois elle dit que le Créateur ne peut pas l'aider. Ainsi, quand une personne fait des efforts dans le travail du don sans réserve, les forces qu'elle a investies ne lui permettent pas de quitter la bataille, et chaque fois, elle a davantage besoin de l'aide du Créateur. Il s'avère que c'est le travail difficile en lui-même qui a fait qu'elle a crié au Créateur de l'aider. Ceci ressemble à ce qui est présenté dans le Zohar. Il y a deux façons dont l'homme souffre dans les souffrances physiques et spirituelles avant qu'il ne se repente. 1. Tout ce que le Créateur fait, il le fait pour le meilleur. Il voit que s'il n'y avait pas eu de terribles souffrances dont il souffre parce qu'il est immergé dans la nature de recevoir pour lui-même, il n'aurait jamais été récompensé de la repentance. De ce fait, il bénit le mal comme il bénit le bien. Car sans le mal, il n'aurait pas été non plus récompensé du bien. Il s'avère que tout ce que le miséricordieux fait, il le fait au mieux, c'est-à-dire pour conduire au bien. Deux, ceci aussi est pour le meilleur. Non seulement le mal qui a été fait cause le bien, mais même les maux eux-mêmes se sont transformés en bien par les très grandes lumières que le Créateur fait briller sur ces maux, jusqu'à ce qu'ils se transforment en bien. Nous voyons donc que lorsque tout le mal est visible, il existe un cli complet dans lequel une lumière complète peut briller. De ce qui précède, nous voyons pourquoi le Créateur a endurci son cœur, ce qui signifie que le cœur appelé désir, c'est encore plus opposé au travail du don. La raison en est que nous avons besoin d'un travail difficile, car ce n'est que par la souffrance d'un travail difficile que ces souffrances engendrent un cri au Créateur avec un désir complet qui nous aide à sortir de l'emprise de Pharaon, roi d'Égypte. Autrement dit, c'est précisément en raison de la bassesse, quand une personne se sent pire que toutes les autres, qu'elle est poussée à crier au Créateur de tout son cœur pour qu'il l'aide. Cependant, dans cet état, il y a beaucoup de hauts et de bas. C'est-à-dire que parfois, une personne ne peut pas croire que la situation dans laquelle elle se trouve vient du Créateur. C'est-à-dire que le Créateur s'est adressé à elle et a entendu sa demande. Que le Créateur l'aide à sortir de l'exil où elle se trouve, sous l'emprise de l'amour à des fins personnelles. Par conséquent, quand une personne a cette foi, elle ne fuit pas la bataille. En voyant que le Créateur n'entend pas sa prière et qu'il n'y a donc personne vers qui prier. Mais elle croit que le Créateur a entendu sa prière et qu'il lui a fait connaître dans quelle bassesse elle se trouvait, qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle était si plongée dans l'amour de soi. De là, chaque fois, elle rassemble ses forces et ne cesse de prier le Créateur. Elle dit, Bien sûr que le Créateur veut qu'un véritable désir apparaisse en moi et qu'il me sortira de cet exil. De ce fait, elle n'arrête pas de remercier le Créateur de lui avoir montré son véritable état. De même, elle se lève et prie le Créateur, car elle voit que le Créateur entend une prière, en ce sens qu'il lui a montré le mal et qu'il l'aidera certainement aussi à la sortir du mal, ce qui est appelé rédemption. Elle croit que le Créateur lui a fait comprendre qu'elle est en exil et qu'ensuite il la sortira certainement de l'exil. Cependant, il y a parfois des descentes dans lesquelles elle a du mal à croire que le Créateur entend une prière, car à ses yeux, elle pense qu'elle l'a déjà beaucoup trop prié. Et bien sûr, si le Créateur entend ce qu'on lui demande, il aurait dû l'aider. Et comme je n'ai pas été sauvé de ce pourquoi j'ai prié, elle dit que le Créateur n'entend pas sa prière. Peut-être qu'il entend celle des autres. Mais quelle différence cela fait-il, puisque ce qui compte, c'est ce qu'elle ressent, à savoir si elle est heureuse ou triste. Ces descentes font naître en elle des pensées de fuir la bataille et de dire que ce n'est pas pour elle. Mais si elle ne fuit pas, elle obtient une autre ascension, et elle recommence à penser différemment, et à oublier toutes les décisions qu'elle a prises. De cette manière, l'ordre des montées et des descentes se poursuit, jusqu'à ce qu'un véritable besoin de se rapprocher du Créateur apparaisse. Ce qui signifie que le kli, appelé désir, est terminé dans sa forme exacte. Pourtant, c'est le Créateur qui sait quand cela est terminé. Et une personne ne peut pas le savoir. À ce moment-là, le Créateur apporte son aide et sort une personne de l'exil. Nous pouvons maintenant comprendre ce que nous avons demandé à propos de la manière dont le Zohar interprète les mots, et Moïse a parlé ainsi aux enfants d'Israël, signifiant l'annonce de la rédemption. Mais ils n'ont pas écouté Moïse par impatience et un travail difficile. Il dit, la patience signifie malroute, qui n'a pas pu sauver Israël. Nous devrions interpréter que le travail principal est dans Malrout, comme le dit le Hari, que l'exil d'Égypte était que la Kedusha était en exil. Autrement dit, le royaume des cieux, que nous devons accepter le fardeau du royaume des cieux parce qu'il est grand et gouverne, ce qui signifie non pas pour recevoir une récompense, mais que le travail doit être un grand plaisir parce que nous avons été récompensés de servir le roi à cause de l'importance du roi. Ceci était en exil. En d'autres termes, l'importance de la Kedusha n'était pas visible. Cela s'appelle Shekhina dans la poussière. Ce qui signifie que lorsqu'une personne doit accepter de travailler pour le Créateur, ce travail est considéré comme une bassesse, car elle n'y trouve aucune importance. Ainsi, le fait que Malchut soit dans la poussière, qu'elle est sans importance, rend le travail difficile. Cela s'appelle impatience, ce qui signifie que Malchut est une chose importante, car celui qui sert le roi est considéré comme celui qui voit la face du roi, qui siège au premier rang dans le royaume pour ces gens. On ne considère pas qu'ils se trouvent chez le roi, ni comme voyant le visage du roi, assis au premier rang dans le royaume, et qu'ils considèrent cela comme un travail difficile. Et nous disons qu'ils sont impatients, ce qui signifie que leur esprit n'est pas élevé. Cependant, lorsque Malchut est en exil sous l'emprise des Klipot, il la considère comme de la poussière sans importance. C'est ce qu'on appelle l'impatience, quand Malchut ne peut pas donner une élévation spirituelle telle qu'elle devrait être ressentie en résidant chez le roi. Il s'avère que l'impatience et le travail difficile sont entrelacés. Cela signifie que si Malchut est dans la poussière sans importance, cela entraîne un travail difficile, car pour quelque chose qui n'a pas de goût, à chaque fois que l'on se dépasse et surmonte, ce dépassement est très difficile et une personne ne peut pas toujours vaincre. Quel est le sens de ce qu'il dit? Le dernier esprit, Malchut, n'a pas encore gouverné le monde pour établir des lois justes, ce qui signifie que Malchut ne dirigeait toujours pas de sorte que tout le monde puisse voir que toutes les lois qui viennent de sa part sont des lois justes, c'est-à-dire que tout le monde serait d'accord et que chacun ressentirait Malchut, appelée Providence, comme bonne et bienfaisante, puisque le monde suit sa direction, la direction du Créateur, comme il est écrit, et son royaume règne sur tout. Ceci n'était toujours pas visible. C'est le sens des mots. Ici, il y avait de la patience. Et de quelle impatience s'agit-il? C'est Malchut qui n'a pas pu sauver Israël. Cela signifie que cette Malchut, étant toujours en exil, ne pouvait pas sauver Israël. Mais quand elle sort de l'exil, c'est le contraire. Elle donne à l'homme l'esprit pour qu'il ait une élévation spirituelle. Par conséquent, quand Moïse est venu et a annoncé la rédemption, ils ne pouvaient pas croire une telle chose, qu'il sortirait de l'exil d'Égypte, comme il est écrit. Et je vous ferai sortir des souffrances d'Égypte, et je vous sauverai de leur travail. Autrement dit, non seulement ils n'auront pas de travail difficile, mais ils n'auront pas de travail du tout. C'est ce qu'ils ne pouvaient pas croire qu'une telle chose puisse arriver. S'ils l'avaient cru, ils seraient sortis de l'exil par la force de la foi. Malchut, appelé esprit, aurait gagné en importance, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste. Qui sait si l'esprit des fils de l'homme monte et si l'esprit de la bête descend sur terre? Nous devrions interpréter l'esprit des fils de l'homme comme signifiant qu'après être sorti de son animal pour devenir un homme, comme l'ont dit nos sages, vous êtes appelé homme. Alors, l'esprit s'élève en haut, ce qui signifie Malrout, qui s'appelle esprit, monte, prend de l'importance.
היינו בחינת מלכות, הנקראת רוח, עולה למעלה בחשיבות. מה שאין כן בחינת הרוח אצל הבהמה, היינו בזמן שה...
Mais l'esprit chez une bête, quand une personne est dans un état de bestialité, pour elle, l'esprit perd son importance. Ainsi, le peuple d'Israël devait révéler son mal pour avoir un manque complet, car une aide complète pourrait alors venir. C'est pourquoi les enfants d'Israël n'avaient pas encore entendu.
J'ai
remarqué en lisant des dizaines de fois le mot « nous devons croire », c'est-à-dire que la personne veut atteindre l'Ishma d'une certaine façon et découvre que c'est un travail difficile, c'est impossible, et alors on doit croire. Et alors nous devons croire et on doit croire, et encore on doit croire. Plusieurs, des dizaines de fois, le Rabash utilise ce mot, cette combinaison de mots, on doit croire. Oui. Et quelle est cette question de « on doit croire » ? On doit croire, on doit recevoir la force qui est dans la réalité. Et que... même si on ne ressent pas cela, on ne peut travailler avec. Et dans tous les cas, c'est là et ça détermine tout.
Oui.
Les yeux, le cœur, l'intellect et l'esprit, il dit à l'inverse. Et comme fuir la campagne. Il explique pourquoi, parce que le Créateur veut m'aider, me soutenir. Mais... où est-ce on doit croire? D'où ça vient? Je ne comprends pas que le Créateur le soutienne et il s'enfuit. Lorsqu'il décrit ici qu'il ressent une difficulté dans le travail, que c'est un travail difficile et qu'il ne réussit pas, qu'il ne voit pas d'espoir de réussir, etc. Et alors il dit, nous devons croire que... et ça, c'est la solution. Où est-ce nous devons croire? D'où est-ce que ça vient? Il doit accepter que même s'il qu'il voit ceci ou cela, selon le plan de la création, ça semble comme si c'était différent. Où est-ce de se recevoir dans son esprit, son cœur? Toutes ces explications dans le rationnel étaient à l'inverse ici. Donc, dans quoi est-ce qu'il reçoit cette chose de croire? Au-dessus de la raison. Même si je ressens que c'est vraiment le cas, selon ma propre opinion, selon mon ressenti. Mais je dois accepter cela comme d'une façon différente. Et où est-ce au-dessus de la raison, ce récipient dans lequel on reçoit cette foi? Ce n'est pas dans la raison, comme je comprends, pense et ressent, que dans ma raison, mais au-dessus de ma raison. C'est-à-dire qu'il peut discerner que c'est à l'opposé de ce qu'il a? Oui. Même s'il ne sait pas ce que c'est, et avec certitude, il sait que c'est ce qu'il ressent. Je sais que quand je pense de cette façon, c'est selon ma raison, mon opinion, et que c'est une chose comme un animal. Et si je veux m'élever à un degré plus élevé, je dois m'élever au-dessus de ma raison. Donc je sais cela. Oui. Ou maintenant, c'est ce qu'on appelle la foi. Qu'est-ce que je sais? J'ai entendu maintenant qu'il a été dit que je sais que maintenant je suis dans un état bestial. Et si je veux devenir un homme, je dois être au-dessus de cela. Oui. Que je sais que je suis dans un état bestial maintenant. Ça, c'est la connaissance de où j'accepte les choses sur moi-même. Ou dans ma vie, le Créateur détermine cela de cette façon. Mais d'où vient ce savoir? Dans quel récipient est-ce que ça vient? Cette connaissance vient dans le récipient de au-dessus de la raison. Ce qui est appelé qu'on doit croire? Oui. Parce que c'est en contradiction à tout ce qui... Oui, certainement, c'est à l'opposé de tout ce que j'ai dans mon esprit bestial sain, mais je dois aller au-dessus de cela. Oui. D'où est-ce que j'irai au-dessus de ça? Comment j'irai au-dessus de ça? C'est-à-dire que mon esprit, mon intelligence me montre une chose et comme l'a demandé Gilad, on doit croire, ça m'élève. L'intellect et la raison, je pense que je ne dois pas y croire. Oui, c'est clair, c'est dans notre monde. Et alors, il y a quelque chose qui est au-dessus de la raison. Au-dessus de la raison, c'est un degré supérieur. Oui, mais il y a un degré supérieur, mais je demande qu'est-ce qui me permettra de m'élever au-dessus de ce degré. Quelle force? Qu'est-ce qui m'élève? Ce que j'appelle particulièrement, ce que je lis particulièrement dans les écrits du Rabash, et que je veux vraiment m'élever au-dessus de ce degré. Mais je n'ai aucune base dans la réalité pour croire que c'est comme ça. J'ai aucune raie sur quoi me compter, me reposer, que c'est comme ça. Mais je lis que c'est comme ça parce que le Rabash explique ça comme ça. Et alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Tu es supposé accepter ce qu'il écrit comme étant une vraie chose et ce que tu ressens et penses, c'est faux. Et quelle est l'action de remplacer l'un par l'autre? Mais c'est comme il y a une déception ici. Je ne sais, c'est pas une déception, mais c'est ce qui est ici. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Disons que j'ai fait ça pendant un moment. Et alors, lorsque tu remplaces ta déception, ton récipient, tu ressens que c'est vraiment comme ça que se comporte la nature. Mais j'ai compris. Donc il y a un saut ici qui est opposé à notre réalité aujourd'hui. C'est juste. Mais à partir du moment où je l'ai fait, la vraie chose que je ressens maintenant, je vois, c'est ce qui me donne ce soutien, cette aide. Oui. Et c'est appelé au-dessus de la raison. Oui. Et alors il y a quelque chose qui permet de faire ce saut. Ou peut-être je demande ça. Comment? Est-ce que la personne fait ce saut? Quel est ce saut? Il veut s'élever dans la perception de la réalité au-dessus de son degré. Peut-être les amis vont continuer, je ne sais pas comment continuer. Oui. On dirait qu'il y a une descente et une descente. C'est pas la même chose. Parce que cet état où la personne tombe est jeté à l'extérieur. Et tout ce que nous faisons, apprenons les paroles du Rabbah et du Valasulam, tout apparemment apparaît comme la peau de l'ail. C'est pas connecté, il n'y a pas de contact. Mais néanmoins, il y a quelque chose en lui qui lui dit que toutes ses pensées, c'est un certain processus qu'il traverse, et tout simplement, il doit laisser ce processus prendre place et rester connecté d'une certaine façon. Il y a un état où il tombe et il reste connecté à tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'attire. Et c'est pas dans les mains de l'homme. Elle a besoin d'une grâce supérieure, quelque chose qui lui donne l'épaisseur et lui donne tout, mais d'une certaine façon, quand même, lui permet de rester connecté. Et y a-t-il quelque chose dans les mains de la personne qui puisse lui permettre de s'accrocher avec cela? Je suppose que tous ceux qui sont partis, que ces choses, ça y est, que le fil est déconnecté, qu'il n'y a rien qui ne, il n'y a plus rien qui les lie. T'as un texte devant toi. Alors, selon ce qu'il écrit, c'est tout. Ok. Mais quoi faire si l'importance du texte disparaît pour moi? J'entends pas bien. Éloigne le micro de ta bouche. Si le texte disparaît pour moi, c'est ça le problème.
Autre pam.
Répète. L'importance disparaît. Oui, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on lit, tous les écrits, oui. Alors, il y a un état où, sans cela, la personne voit que c'est ce qui reste en moi, c'est moi, c'est ce qui se passe en moi. Et demain, quelque chose d'autre arrive pour moi, alors et il ne faut pas se déconnecter. Et alors, il y a un état où la personne dit, ça y est, je change mon esprit, toutes mes pensées étaient fausses, je dois aller dans une autre direction. Et alors il se déconnecte. Je demande dans cet état, y a-t-il quelque chose que la personne peut faire pour ne pas atteindre cela, pour toujours rester d'une certaine façon connecté ou... Donc c'est une personne qui ne veut pas se détacher de l'état précédent, c'est ça? Il dit qu'il ne veut pas se déconnecter du tout, oui. Oui. Et qu'est-ce que tu recommandes? Je demande, je ne recommande pas. La personne doit désirer ardemment toucher toutes sortes de connaissances et de directions où il a l'habitude d'avancer, et je dois avancer selon des nouveaux moyens, pour être uniquement dépendant et saisir le Créateur. Et rien d'autre est important pour lui. Ce qui arrive le prochain moment, il ne doit pas penser à cela. Mais il semble qu'afin d'être dans cet état, toujours, peu importe ce qui se passe, tout ce qui lui arrive, il a besoin d'une protection d'en haut. Il ne pense pas à cela. Il ne place pas des conditions devant le Créateur pour qu'il le soutienne. Et c'est pas quelque chose qu'il peut demander, alors? Non, pourquoi? Il a besoin de l'opposer. Être complètement indépendant de tout. Ok, merci. Oui. Merci. Dans cet état, seul, si la personne ne croit pas que le Créateur répond à ses prières, si un ami doit aller dans sa dizaine et dire aux amis, je suis dans une telle bassesse, je ne peux pas croire comment continuer, les amis. Lui donne des raisons de continuer, que le Créateur est le bon qui fait le bien, et il prend sur lui la croyance que ce que disent les amis est à la place de ce qu'il ressent. Est-ce que c'est considéré au-dessus de la raison? Il accepte plutôt que sa raison, la raison des amis. Alors, qu'est-ce qu'il y a en cela? Est-ce que c'est considéré au-dessus de la raison? Non, pas encore. Est-ce que c'est dans la bonne direction? Peut-être avec de tels exercices. Non, alors c'est pas la solution. Non. Donc, une personne seule... Je n'entends pas la référence à la dizaine dans cet article. Oui, dit le Rav. Également, je ne l'entends pas, je ne vois pas. Alors, est-ce qu'il y a une personne seule dans cet effort? La personne seule fait l'effort selon ce qui est écrit. Oui.
Bien.
Pour continuer la question d'avant, une descente, par sa définition, c'est une déconnexion. D'accord? Bien, oui. Et qu'est-ce qui soutient une personne dans cet état s'il est déconnecté? Comment est-ce qu'il reste connecté? Qu'est-ce qui lui fait dépendre précédemment? Ben, c'est un sentiment intérieur. Dans un état de descente, il écrit également qu'il y a de beaucoup d'ascensions, descentes, et qu'il ne veut pas se déconnecter. Alors, qu'est-ce qui reste? Comment revenir chaque fois? Il ne veut pas revenir, mais il veut aller vers quelque chose de nouveau. Revenir au passé, se rappeler du Créateur, d'où est-ce qu'il revient? Mais qu'est-ce que tu veux dire par d'où? D'où est-ce que la personne, par définition, est déconnectée? D'où est-ce qu'elle revient? Donc il revient de ce détachement. Mais qu'est-ce qu'il ramène? Qu'est-ce que ça veut dire que ça le ramène? Mais vraiment, la personne est toujours dans un certain processus où les forces du Créateur agissent sur lui. C'est tout. Alors, mais qu'est-ce qu'il fait? Il oublie, il ne se rappelle rien de la leçon. Alors il est mort, et quoi? Mais qu'est-ce qu'il ramène à la vie? Le Créateur également. Pour qu'il ne soit pas mort. Alors, la personne attend que le Créateur le ramène à la... Non, la personne n'attend pas. Peut-être il est mort de telle sorte qu'il ne peut pas s'aider lui-même. Il doit atteindre la résurrection des morts. Il remercie uniquement le Créateur. Mais qu'est-ce qui dépend de la personne alors? Le se renforcer en ce qu'il est capable pour faire partie de la société, qu'il dépend de la société, et le tronc dans cette société comme un corps mort. Et alors, les amis l'aident. C'est tout. Il y a toutes sortes de choses ici. Des gens doivent passer par ces états. La chose principale, c'est d'accélérer, d'être aussi connecté que possible aux amis, et cela le ramène plus rapidement au chemin correct. C'est tout. Oui. Je voulais demander à propos de ce discernement de Moïse qu'il a dit qu'ils ne me croiront pas. Oui.
Pourquoi
est-ce qu'il est dans un tel état état finalement où ils ne le croiront pas. C'est que ils ne le croiront pas, c'est parce que il n'a aucune autorité sur quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que les ils le croiraient? Mais parce qu'il vient au nom du Créateur pour parler de la foi. Mais ils ne le croiront pas, c'est ça le cas. Est-ce qu'une étape, on partage la foi qu'ils ne te croiront pas? Tu dois être équipé comme Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est dans tes mains, en ton pouvoir? Mais d'où est-ce qu'il amène les forces de faire cela s'il est certain qu'ils ne le croiront pas? Non, c'est certainement qu'ils ne le croiront pas, ça c'est correct, selon son état et leur état, mais alors il peut se tourner vers le Créateur et lui montrer le manque qu'il n'a pas, qu'il veut réaliser les actions, mais il est incapable. Alors le Créateur lui donne la force du serpent et la force du bâton. Alors le premier aller, même s'ils ne le croiront pas, pourquoi de ce qu'il a cette capacité de même approcher, leur parler de la foi où il voit que c'est comme une chose perdue, quoi. Une peine perdue. Ça, c'est en connexion avec le Créateur. Moïse, dans tous les cas, est connecté à lui. Ça, c'est le besoin de Moïse. Ça, c'est le besoin du public. Et alors, le collectif fait ça en Moïse? Oui. Alors, pourquoi au début, il est dans le doute qu'ils ne le croiront pas, alors que ça doit venir d'eux, que finalement, ils ont besoin de cette foi? Il a besoin que eux croient à cela, sinon ils ne le suivront pas. La foi que le collectif a besoin, qu'il écrit ici, il écrit que c'est toute une question d'au-dessus de l'importance, et alors ils émergent de l'exil. Est-ce que la foi est une question d'importance? La foi est une question d'importance. Mais le don devient plus important que la réception? Que c'est appelé qu'il acquiert cela, oui. Mais que ce sont des récipients de dons? Les récipients de dons, c'est des désirs dans lesquels il peut le donner, au-dessus de la logique. Mais pourquoi est-ce que cela est exprimé par l'importance? C'est important pour toi, alors c'est... Mais comment est-ce que ça doit être exprimé uniquement ça? Qu'est-ce qu'on a dans le jeu? Quelque chose est plus importante que l'autre. Mais parce qu'on apprend que les récipients sont l'intention que la personne met sur le désir. Et ici, soudainement, s'il y a cette importance, l'importance du don, alors ça sort de l'exil. Il sort de l'exil. Oui. Mais il n'a besoin de rien d'autre. S'il a une plus grande importance du don et dans son désir de recevoir, alors il s'élève au-dessus de l'exil. Alors, que veut en fait faire Moïse aux gens? Est-ce qu'il construit en eux un besoin du don? Et c'est ça qu'il fait? Oui, il veut leur expliquer que... il n'y a pas de plus grande force que le don. Et uniquement l'importance, uniquement avec l'importance, il n'y a rien d'autre. Quand tu as la personne, c'est juste important pour toi et c'est tout. C'est tout. Mais où est le récipient sinon? Ici. Où est le récipient de don? Si tout est finalement que ça doit être important. Nous devons relire alors tout l'article. Allez, répondez-lui. Qui est prêt? Mais la personne atteint des récipients de dons. Alors elle, ça devient réel pour lui après ça. Peut-être c'est ça qui est important. D'autres?
Bien. Oui,
il écrit que lorsqu'il est assis avec le roi, Malhout se sent élevé. Et il n'y a pas de sentiment de travail difficile quand on est comme ça. Eh bien, c'est ce à quoi on doit aspirer. On doit se rapprocher du Créateur, mais ressentir qu'on est dans le palais du roi et que c'est Malhout qui contrôle tout. Ok. Moshe, qu'est-ce qu'on fait après? On a soit l'article La Liberté ou le portail des intentions pour Pâques. On a besoin des deux. Alors, passons d'abord à la liberté. Donc, on passe à la prochaine partie de la leçon, mais d'abord, on chante une chanson.
Once again, we gather as one man. Once again, below this mount of hate. You and I have done this all before. Some would say it's fate. Look around, a new day soon will dawn. Now we meet again, but now our hearts are bare through the mist. Our eyes will crave the light. In a common prayer. La 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 la. И когда горячие пески остановят караван во мгле, ты воды последние глотки принесешь ко мне. Не предашь, когда оставят все, заслонишь меня собою от беды. Мне не страшен стыд мой успех, когда рядом ты. Ha